Salut Mohamed.
Ça
va? Et toi Mohamed le Biffin, là je fais un sujet sur les impôts.
Sur les impôts?
Ouais, ça va, t'es pas trop taxé quand
Taxé sur quoi?
Tes impôts sur les revenus.
Tes impôts, quels revenus?
L'impôt sur les sociétés.
Je touche même plus de RMI mon frère, je touche rien. Pourquoi tu me parles là?
Qu'est-ce qui était très simple? L'impôt sur le revenu. Qui au départ, jusqu'à ces toutes dernières années, était un impôt sur l'ensemble des revenus que l'on payait, j'allais dire, naturellement, avec un effet progressif, et donc ce qu'on appelle les fameuses tranches. C'était simple. Et puis, il y a eu cette forme de phobie de l'impôt, et qui, parce qu'il fallait faire baisser l'impôt sans trop le montrer, par le mécanisme qu'on qualifie aujourd'hui des niches, arrive à des situations incroyables.
Donc ça va, toi, tu te plains pas trop des impôts?
De quoi tu me parles? Je suis SDF, moi, il n'y a pas d'impôts, tu le sais bien.
J'ai protesté parce que, avec le système des niches fiscales, il y a beaucoup de cadres moyens qui ne paient plus d'impôts sur le revenu, hein, sur le revenu. Donc moi, je vois arriver une feuille d'impôt où j'ai normalement 8000 euros d'impôt sur le revenu. Et puis grâce aux niches fiscales, il y a zéro. On arrive à cette situation aberrante où moi, je n'ai pas d'impôt sur le revenu, mais où les gens qui travaillent pour moi, eux, en payent.
Pas d'impôt foncier?
Pas de... C'est quoi impôt foncier?
Taxe d'habitation?
J'ai pas de maison. Tu veux que j'habite dehors et j'ai payé le truc de truc là? Pourquoi tu me parles là? Ah, tu me rends fou là de bon matin.
Toi, t'as trouvé la solution contre les impôts. Hein. Pas de boulot, pas de logement.
Boulot. Bonjour. Pas de boulot, pas de logement. Ah, c'est la vie.
On pouvait arriver à zéro impôt. Vous savez, la France, elle peut être un paradis fiscal pour les gens qui s'organisent très bien, tout à fait légalement. Et qui ont des bons conseillers fiscaux.
Pour aller voir l'autre, là, Boutancourt, là. Boutancourt, là, la milliardaire. Elle, il faut qu'elle paye les impôts. Non?
Bon, plusieurs calculettes en marche, alors. Liliane Boutancourt, elle touche 400 millions d'euros par an.
Oh, 400 millions. Ah, vache.
Encore 6.
1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Mon portable, il va exploser, il n'a jamais vu autant.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la baisse et j'y suis avec François Ruffin et Pascal Pascariello. Fiscalité, la fabrique des inégalités. Vive les impôts!
Gérard Gourguéchon, vous êtes l'ancien secrétaire général du syndicat des impôts. Vincent Drezé, vous êtes le porte-parole du syndicat des impôts. Là, je vous ai fait venir rue Royale, donc c'est dans les beaux quartiers. On est dans les beaux quartiers à Paris. On est 14 rue Royale. Dans cette rue, il y a Ralph Lauren, il y a Dior, il y a plein de jolis hôtels. Et on est au 14, devant le siège de L'Oréal. C'est ici qu'hébergeait la société Tétis. Vous savez, la société par laquelle transitent les biens de Liliane Boutancourt.
Oui.
On y va?
Vous avez demandé rendez-vous?
Non, non, mais on y va pour le contrôle fiscal.
Ah d'accord, d'accord. Le chauffeur se fait pas autoriser à faire le contrôle fiscal pour l'instant. On n'a pas eu de... Normalement, quand on fait un contrôle fiscal, on le signale à l'avance pour que les gens, notamment, aient le temps de faire du rangement. Et puis, une société comme ça, je pense que la direction est concernée dans son avis ou pas. Là, on n'a pas du tout d'autorisation, on n'a pas de mandat.
On n'a surtout pas envoyé d'avis de vérification.
Donc là, vous voulez pas qu'on y aille pour faire le contrôle fiscal?
C'est-à-dire qu'on n'est pas habilité d'une part et on a même pas, la procédure n'est même pas engagée d'autre part.
Parce que moi je suis venu pour vous engueuler quand même. Je vous préviens, parce que j'ai lu, bon, quand on va sur internet, on voit qu'il y a des tas de PME, de petites boîtes qui sont contrôlées tous les 3-4 ans par les inspecteurs des impôts, par les contrôleurs des impôts. Et je lis le témoignage de Claire Thibault, donc l'ancienne comptable de Liliane Boutancourt à Tétis, là, devant le 14 rue Royale, et qui dit, bah voilà, moi j'étais 13 ans au service de Madame Boutancourt, et en 13 ans, j'ai pas eu une seule fois affaire à un inspecteur des impôts. Alors qu'est-ce que vous faites?
Vous vérifiez une grosse boîte, une multinationale, vous demandez les factures d'achat de 2008, on vous ramène 3 wagons, quoi. Et donc, quand on vérifie une grosse boîte...
Là, vous mettez le doigt vers L'Oréal.
L'Oréal, mais celle-là, c'est une méga grosse boîte, avec l'ensemble des sociétés qui tournent autour. Hein. Vous allez voir 1%, 1 pour 1000 de son activité. Quand vous vérifiez un boucher cutier dans un village, il n'est pas transparent, mais au bout de 15 jours, vous avez fait le tour sur un enregistrement personnel, vous arrivez à voir. Ici, on n'arrive à rien voir. Et par ailleurs, ils utilisent, on l'a pas encore dit, des comptes en Suisse, dans les paradis fiscaux, des sociétés écrans, qui ajoutent à la difficulté.
C'est tellement difficile que là, du coup, chez L'Oréal, vous n'y allez pas ou presque pas?
Notamment pour la raison que souvent le politique peut ne pas inciter à y aller. Et par ailleurs aussi le système administratif depuis 30-40 ans, les agents, il faut faire un certain nombre de, pour les, ceux qui sont vérificateurs, il faut chaque année faire un certain nombre de contrôles fiscaux. Et bon, donc c'est le rendement, le nombre de fiches. Et assez souvent, donc les agents vont aux fiches les plus simples, les moins compliquées, quoi.
C'est-à-dire que comme ils doivent faire un certain nombre de contrôles, si jamais ils viennent contrôler L'Oréal, ça leur prend 3 mois ou 6 mois. Ouais. Puis, ils vont faire 2 contrôles dans l'année. Et s'ils font les bouchers charcutiers, là, ils peuvent en faire une centaine dans l'année. Quoi.
Et puis en plus, s'ils vérifient L'Oréal et puis que ça finisse par un redressement, bon, ça peut, pas toujours, hein, mais ça peut toujours finir dans le tiroir du directeur et on n'en parle plus, quoi. Donc on a ramé pour des prunes, quoi. Alors que vérifier le boucher du coin, le contrôle sera fait, il y aura le redressement, il va payer, le travail sert à quelque chose.
Bon, bah, puisque une nouvelle fois vous êtes complice d'Éric Woerth et Liliane Bettencourt et que vous ne voulez pas aller contrôler L'Oréal, il y a aussi autre chose sur laquelle je dois vous engueuler. Moi, avant d'avoir un enfant, j'avais un impôt sur le revenu à hauteur de 15,5%. J'ai vu des infirmiers à l'hôpital Nord d'Amiens qui sont à hauteur de 12% à peu près. Et là, on découvre dans la presse quoi? Que Liliane Bettencourt, son impôt, quand on cumule impôt sur la fortune, impôt sur le revenu, CSG, CRDS, que je ne sais même pas ce que c'est la CRDS, mais on découvre que son impôt, il est entre 5 et 10% seulement.
Ah oui, mais ça, c'est pas les fonctionnaires qu'il faut engueuler. Les fonctionnaires appliquent la loi. La loi, elle est votée par le Parlement sur proposition, entre guillemets, du gouvernement. Donc, il faut engueuler les politiques qui ont proposé des lois et qui les ont votées et qui nous ont demandé ensuite de les mettre en application, mais des lois parfaitement injustes. Et effectivement, on arrive à une situation où plus on est riche, plus on peut défiscaliser. C'est le monde à l'envers.
Parce que le bouclier fiscal, c'était pour payer moins de 50% de ses revenus. Oui. Et là, elle devrait, comme elle touche à peu près 400 millions de dividendes, j'ai lu, elle devrait payer 200 millions. Or, elle laisse que 40 millions aux impôts, 5 fois moins.
Elle devrait certainement en payer plus, quoi. Mais du fait que la défiscalisation, des niches fiscales, pour elle, ça doit compter aussi, elle minore son impôt sur le revenu.
Alors là, on rentre au bistrot juste derrière L'Oréal.
Il y a du sang de pauvres dans l'argent des riches. Oh, oh, oh. Il y a du sang de pauvres dans l'argent des riches. Voilà une sentence bien excessive et bien démagogique. Pensez-vous, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de lien entre, hélas, la pauvreté des uns et, chance, l'argent des autres. Il n'y a pas de lien. Ils ont la chance d'être riches, et bien qu'ils le soient riches. C'est ce que beaucoup d'entre nous pensent quand on évoque la figure de Madame Bettencourt ou de ceux qui sont les plus riches d'entre nous. Eh bien si, il y a un lien, et on le démontre très facilement, on l'a démontré très facilement, entre le sort de ces infirmières de l'hôpital d'Amiens, qui vont être licenciées, leurs postes vont être supprimés, faute de fonds, faute d'argent public, alors que Madame Bettencourt ne paye que 9% d'impôts. C'est aussi direct que ça. Et on peut continuer. Et c'est ce qu'on a fait dans les deux numéros précédents entre ces vases communicants, ces liens qu'il y a bel et bien, ce détriment entre l'enrichissement des uns et l'appauvrissement des autres. La fraude fiscale en France est estimée, par exemple, à entre 40 et 50 milliards d'euros, selon le SNUI, le Syndicat National unifié des impôts dont nos deux inspecteurs que vous venez d'entendre, M. Gourguechon et M. Drezet, font partie. C'est beaucoup de sous, ça, quand même. Et là, on parle de fraude, on ne parle pas de légalité. On a vu cette avocate fiscaliste nous expliquer ce que pouvait être l'optimisation des revenus dans la plus grande légalité, mais dans la plus grande injustice. C'est donc bel et bien là, au niveau du budget qui se discute, qui se débat en ce moment, que se joue l'essentiel du geste politique, l'essentiel de la politique, l'essentiel des idées et de l'idéologie politique, tout simplement. Je le disais en commençant, on est devenus tous, je crois que c'est depuis longtemps quand même, impôts-phobes, personne n'aime payer ses impôts. Eh bien, c'est bien dommage. Il y a d'abord des pays où les gens sont ravis de les payer parce qu'ils savent où ça va, ils savent ce que ça peut réduire en termes d'inégalité et en redistribution des richesses. C'est un rêve que beaucoup ont fait, qui est inscrit dans nos lois, qui est inscrit dans nos rêves et dans les grandes idées qui parcourent l'histoire de l'humanité. Pas moins, c'est jusqu'à 16h, c'est la Basse-Élysée.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer ceci: prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano.
Alors, Vincent Drezet, Gérard Gourguechon. Alors Vincent Drezet, vous avez écrit plein de bouquins, vous, alors en ce moment, vous arrêtez pas. Pour un big bang fiscal, ça vient à peine de sortir, que vous publiez maintenant, il faut faire payer les riches. Moi, je veux bien qu'on fasse payer les riches, je veux bien payer aussi, mais est-ce que l'impôt, ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est efficace pour réduire les inégalités, pour la redistribution, ainsi de suite, ou bien est-ce que ça sert à rien, et à ce moment-là, je vois pas pourquoi on paierait?
Ben, si on vivait dans une société sans impôts, il faudrait qu'on se paye les services publics qui aujourd'hui sont gratuits ou quasi gratuits. L'exemple le plus frappant, c'est l'éducation nationale. Il faudrait que chacun imagine que sans impôts, il faudrait, lorsqu'on envoie ses enfants à l'école, au collège, au lycée, etc., payer le salaire des profs, payer les biens immobiliers dans lesquels sont installées les écoles, etc. Et il y a un calcul qui a été fait par l'OCDE, donc l'OCDE c'est pas non plus un ramassis de gauchistes. Une année de scolarité au collège c'est 8 000 euros. Voilà. Une année de scolarité à l'école c'est 5 000 euros. Et donc plus on avance dans les études, plus c'est cher. Qui peut envoyer ses enfants à fac? C'est ça la vraie question. Et on pourrait multiplier le raisonnement sur la santé, sur les routes. Une société privatisée, il faudrait payer les péages à tous les coins de rue, parce qu'il y aurait, selon les communes, etc., ça serait l'entreprise qui gère la route, etc. Donc c'est une société invivable. En clair, c'est même pas une société.
Parce que alors, pour réduire les inégalités, est-ce que ça marche? Est-ce que l'impôt réduit les inégalités ou pas?
Alors, lorsqu'on prend les 20% les plus riches par rapport aux 20% les plus pauvres, avant impôt, eh bien, les 20% les plus riches gagnent un peu plus de 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Après impôt, comme c'est plus redistributif, c'est 7,6 fois.
Avant impôt, les 20% les plus riches gagnent 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Après impôt, c'est 7,6. Oui. Bon, donc c'est presque pareil. Il n'y a pas grande différence entre 8, quelque chose et 7,6. L'impôt, là, il n'est pas très redistributif.
Eh bien, voilà. Là, on voit que comme les inégalités après impôt sont finalement assez peu réduites, et ça montre que le système fiscal n'est pas assez progressif. Les cotisations sociales, elles, contribuent vraiment à réduire les inégalités parce que l'écart, à ce moment-là, passe de 7,6 à 5. Toutes les cotisations sociales patronales et salariales vont aux caisses de sécurité sociale et ça finance les retraites. Quand on va chez le médecin, on se fait rembourser. Donc toute cette redistribution sociale, en espèces, elle contribue à réduire les inégalités parce que ça veut dire qu'on peut aller se faire soigner sans avoir la trouille, ben, finalement qu'on en soit que de son porte-monnaie. Il y a une part quand même qui est remboursée par la sécurité sociale. On peut prendre sa retraite en disant « je n'aurai pas à vendre ma maison pour me financer la retraite, j'aurai une retraite ». Donc toute cette redistribution monétaire, elle corrige les inégalités et donc l'écart entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres, qui était de 8,1 avant impôt, de 7,6 après impôt, redescend à 5 après ce qu'on appelle les transferts sociaux, et donc les retraites, les remboursements de frais de santé, etc. Et puis il y a aussi une chose, tout à l'heure on évoquait l'éducation nationale, les services publics gratuits, ben, c'est intéressant parce que ça permet à tout le monde d'en bénéficier. Donc,
par exemple, c'est quoi alors les services publics gratuits?
Les services publics gratuits ou quasi gratuits, c'est l'école. L'école, par exemple.
Les bibliothèques municipales, la piscine, tout ça.
Les bibliothèques, la piscine, souvent on paye quelque chose, mais on paye rien par rapport au réel coût. C'est financé par les collectivités locales. Et lorsqu'on intègre tous ces services publics nationaux ou locaux, eh bien, ça aussi, ça joue un effet redistributif. Et l'écart entre les 20% les plus riches et les plus pauvres se réduit à 3,2.
Donc, avant impôts, avant transferts sociaux, avant financement des services publics, on est dans un écart de 1 à 8 en termes de revenus entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Les 20% les plus riches gagnent en moyenne 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Et après impôts, après transferts sociaux, après financement des services publics, de la piscine, de la bibliothèque, de l'école et ainsi de suite, on est dans un rapport de 1 à 3.
Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Dominique Payet. Merci de me laisser un message avec vos coordonnées si vous voulez que je vous rappelle très rapidement.
Après votre message, faites le 1 pour plus d'options.
Oui, bonjour monsieur le porte-parole de l'UMP. Je suis François Ruffin, journaliste à France Inter. Je prépare un sujet sur les impôts. Là, j'ai lu une donnée par le président du Cercle des fiscalistes qui annonce que en France, suite aux réformes du droit de succession, à la quasi-suppression de l'impôt sur les successions, 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'un euro travaillé, je le cite. 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'un euro travaillé. Donc j'aurais voulu avoir votre réaction sur cette donnée, sachant que le slogan de Nicolas Sarkozy était « Travailler plus pour gagner plus ». Est-ce que ça serait « Hériter plus pour gagner plus » ? Voilà. Eh bien, écoutez, si vous pouvez me rappeler, je vous remercie beaucoup, Monsieur Payet. Voilà, bon après-midi, au revoir.
Bon, il va sans doute rappeler le porte-parole de l'UMP, à n'en pas douter. En attendant, on va rencontrer Thomas Piketty, qui est un économiste et qui a beaucoup travaillé sur les impôts, tout simplement.
Alors, Thomas Piketty, attendez, où est-ce que je me dis mon bouquin ? Je suis en train de lire la biographie de Joseph Caillaux,
ah oui.
Le ministre des Finances qui a porté sur les fonds baptismaux l'impôt sur le revenu. Ce que je découvre, c'est que d'abord, en 1848, il y avait déjà l'idée d'un impôt sur le revenu, qui était rejeté par M. Thiers en disant « l'impôt direct est celui des pays barbares », donc il préférait l'impôt en direct. En 1871, juste après l'Empire, l'idée d'un impôt sur le revenu revient. Thiers revient à nouveau en disant qu'il ne faudrait pas semer des germes de discorde, l'homme qui venait de faire tirer sur la Commune 2 mois avant, puisqu'on est en 1871. Ensuite, de 71 à 98, je vois qu'il y a eu une centaine de propositions formulées par des députés qui ont toutes été rejetées de création d'un impôt sur la fortune, pardon, d'un impôt sur le revenu. Et ça n'est proposé par Joseph Caillaux, donc en 1907, à un taux de 3 à 5% à l'époque, donc c'est pas très élevé. C'est discuté pendant 2 ans, le projet est quand même discuté pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, c'est hallucinant. On se dit, là, il y a une résistance, non seulement ils ont résisté pendant 60 ans, pour que ça passe pas, au moment où ça arrive devant l'Assemblée nationale, ça y reste pendant 2 ans, le gars se fait traiter de tous les noms, le gars c'est Caillaux, il se fait traiter de tous les noms, on lui dit que son projet constitue un péril national et ainsi de suite. Il est soutenu par Jaurès, donc au bout de 2 ans, le projet passe en mars 2009. Là, il est encore retardé par le Sénat, parce que là, on croit que c'est fini, on croit qu'il a gagné. Le Sénat, il bloque le truc, et en fait, c'est juste parce qu'il redevient ministre en 1914, Caillaux, au moment de la guerre, de l'entrée en guerre, et là, et en fait, ça ne que très partiellement
mise en œuvre, même en 1914. Enfin, il y a un déchaînement de toute la bourgeoisie contre Caillaux, à tel point qu'il y a une campagne de presse qui est menée, notamment par Le Figaro, qui dure pendant 3 mois, où on le traite de plutocrate démagogue, on l'accuse de corruption, on l'accuse de tout, d'être un agent de l'Allemagne, et ainsi de suite. On sort des lettres intimes, à tel point que la femme de Caillaux va aller voir le directeur du Figaro avec un flingue et tuer le directeur du Figaro avec 5 balles dans la tête. Donc on dit que là, quand il s'agit d'installer un impôt progressif, un impôt sur les revenus, il y a eu une résistance en face qui était absolument considérable, qui au fond, enfin je sais pas, c'est une lecture historique du XXe siècle, mais vous allez me corriger, je viens vous voir pour ça. Au fond, pour des raisons historiques, parce qu'il y a eu la révolution russe, parce qu'il y a eu la menace en 1945, le compromis, on va dire, entre les gaullistes et les communistes, il y a eu une acceptation de cet impôt sur le revenu, même dans les années 70, je regardais des archives de l'INA, il y avait des députés de droite, Michel Poniatowski, Didier Bariani, donc pas des super progressistes, mais qui demandaient à renforcer l'impôt sur les successions, à créer un impôt sur la fortune. Donc le vent souffle dans le dos des progressistes pour créer des impôts comme ça, et tout retombe dans les années 80, où là, quand je consulte, je vais à la documentation de Radio France, Claire Chazal, elle est journaliste aux Échos à l'époque, Claire Chazal, elle fait des papiers en disant « Regardez, la révolution fiscale américaine, c'est vers ça qu'il faut aller. » On a des universitaires qui prennent la parole en disant « Il faut plus d'impôts sur le revenu du tout. » Donc on a l'impression que là, enfin, il y a eu un compromis jusqu'à la fin des années 70, et là, tout bascule dans les années 80, comme s'il y avait un relâchement à gauche, et puis qu'on revenait au débat du moment où Caillaux il tente d'instaurer son impôt sur le revenu.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette lecture. Je tire plusieurs leçons de ça. Premièrement, la capacité des possédants à faire preuve de mauvaise foi pour défendre leur bout de gras est absolument sans limite, hein, et elle était sans limite en 1900-1910 quand il s'agissait de repousser absolument cet horrible impôt sur le revenu qui n'avait pourtant dans le projet de Caillaux qu'un taux maximal de 5%, hein, mais pendant 20 ans, 30 ans, les possédants ont fait en sorte de le repousser. Et pourtant, on était dans une société qui était formellement démocratique, enfin avec une presse libre, des élections. Et je pense que c'est une leçon qui vaut encore pour aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, on est une société démocratique, mais la capacité d'une minorité à défendre ses intérêts et à faire preuve d'une mauvaise foi absolument sans limite pour prétendre que c'est l'intérêt général, que leur intérêt particulier se confond avec l'intérêt général, et pour finir, pour ne pas payer d'impôts, pour en payer le moins possible, cette capacité-là est sans limite. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience. Et leur capacité aussi, chez certains journalistes, à défendre ce type d'agenda politique et ce type de discours. L'autre raison peut-être pour laquelle on se retrouve aujourd'hui à détricoter cet héritage de l'impôt progressif, c'est que dans le fond, cette rupture de l'impôt progressif qui survient, pas tant avec Caillaux, mais finalement avec les guerres mondiales. C'est uniquement après la Première Guerre mondiale, après la révolution bolchevique, après qu'il se soit passé quand même beaucoup de choses, que les élites politiques acceptent de voter des taux d'imposition très progressifs et très élevés pour les plus hautes fortunes et les plus hauts revenus.
En 1924, j'ai lu que la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, ça montait jusqu'à 90%. Enfin, les plus hauts revenus des plus hauts revenus pouvaient être taxés jusqu'à 90%. Aujourd'hui, on est à 40% et en plus, il y a le bouclier fiscal.
Oui, tout à fait. On observe dans les années 20, donc c'est même une chambre de droite, hein, le Bloc national qui vote ça dans les années 20 en France. On observe le même phénomène aux États-Unis dans les années 30, où c'est Roosevelt, qui n'était pas du tout un bolchevique, qui vote un taux supérieur d'imposition à 91%, qui s'appliquera aux États-Unis jusqu'aux années 60. Hein, on oublie ça complètement, mais pendant un demi-siècle aux États-Unis, des années 30 jusqu'aux années 80, le taux le plus élevé d'imposition était de 82% en moyenne, hein, pendant un demi-siècle aux États-Unis. Bon, de toute évidence, ça n'a pas tué le capitalisme américain.
Pourquoi la droite en France dans les années 20 décide ça? Et pourquoi aux États-Unis, en Angleterre aussi, à peu près dans les mêmes années? Ouais. Parce que là, des taux de 80-90%, ça veut presque dire, au-delà d'une certaine somme, on vous prend tout.
Mais pourquoi?
Pourquoi on décide ça?
Bah parce que tout le monde est traumatisé aussi par la révolution bolchevique et se dit que finalement une redistribution démocratique par l'impôt, ça vaut peut-être mieux que la révolution socialiste. Et c'est uniquement après tous les bouleversements politiques, financiers, géopolitiques entraînés par la guerre, et puis en 1945 avec tous les bouleversements qui ont lieu, qu'on adopte vraiment l'impôt progressif. Donc c'est pas le socle intellectuel, proprement intellectuel pour la fiscalité progressive, était finalement assez faible. C'est-à-dire que ce sont plutôt les événements qui l'ont imposé. Et je pense que ça explique aussi en partie pourquoi finalement, ça a été battu en brèche depuis les années 80-90, c'est que dans le fond, ça n'a jamais été vraiment porté politiquement par la gauche. Il faut se rappeler que la gauche politique, et notamment communiste et socialiste, au début du XXe siècle, dans le fond, n'était pas très très convaincue par l'impôt progressif. C'est-à-dire que la gauche misait tout sur l'appropriation collective des moyens de production, la révolution bolchevique, et dans le fond, l'impôt progressif, c'était souvent vu un peu comme un pis-aller, voire un élément qui pourrait endormir les masses dans leur marche historique vers la révolution. Et donc il y avait plutôt une méfiance par rapport à cet outil. Et je pense que de façon plus générale, ça n'a jamais été vraiment pensé intellectuellement comme non pas justement un pis-aller, non pas une rustine, mais quelque chose d'absolument fondamental qui mérite qu'on se batte pour lui. Vous voyez, on va se battre dans la rue pour défendre les retraites, et c'est très bien. Personne ne va se battre dans la rue pour défendre l'impôt progressif. Et je pense que c'est un peu le cœur du problème, c'est qu'on ne s'est pas vraiment approprié ces instruments démocratiques essentiels comme quelque chose de fondamental pour transformer la structure du capitalisme et des inégalités.
Que l'on impose les très grandes richesses, ceux qui possèdent des châteaux, des palais, ceux dont la vie n'est faite d'allégresse, sans nul souci, ne travaillant jamais. Que l'on impose les archi-millionnaires, mais que désormais on laisse à l'ouvrier intégralement l'argent de son salaire, pour qu'il n'y ait plus de misère à son foyer. Au lieu d'imposer le travailleur qui enrichit le gouvernement, imposez plutôt les noceurs et qu'il paie pour les pauvres gens. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les pénions.
Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Dominique Payet. Merci de me laisser un message avec vos coordonnées si vous voulez que je vous rappelle très rapidement.
Après votre message, faites le 1 pour plus d'options.
Oui, Monsieur Payet, excusez-moi de vous déranger. C'est à nouveau François Ruffin de France Inter. Comme je vous le disais, j'ai lu Monsieur Philippe Bruno, président du Cercle des fiscalistes, qui disait que en France, 1 euro hérité était 3 fois moins taxé qu'1 euro travaillé. Hériter plus, alors est-ce qu'à la place de travailler plus pour gagner plus, ça serait hériter plus pour gagner plus? Voilà, bah écoutez, si vous pouvez me rappeler. Au revoir.
Bon, mais il va sans doute rappeler ce monsieur, il va faire plaisir à ce jeune reporter, ce jeune François Ruffin. C'est beau, hein, la chanson que vous venez d'entendre, là, l'impôt sur les feignants. Je sais pas de quand date cette chanson, mais c'est une vraie merveille. Donc vous avez compris, vive l'impôt progressif, progressif. On retrouve, avec François Ruffin, Thomas Piketty.
Thomas Piketty, en un sens, l'impôt... À quel niveau on place l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions, quels choix fiscaux on fait, ça dépend aussi finalement d'un rapport de force, d'une lutte des classes à l'intérieur de la société.
Moi, je dis que c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas au XXe siècle. C'est-à-dire, les choses se sont passées de façon dans la violence, c'est-à-dire que les inégalités ont été réduites dans la violence suite à des chocs terribles. Et j'ai bien peur, malheureusement, quand j'observe la scène politique actuelle, que le choc produit par la crise financière mondiale de 2007-2009 ne soit pas finalement assez fort, tout simplement. Simplement, aussi violent puisse-t-il sembler, eh bien, je crois qu'il ne. Finalement, on a l'impression là qu'on repart un petit peu comme avant et qu'il faudra des chocs beaucoup plus violents encore. J'ai peur que le cours naturel des choses actuellement, pour plein de raisons idéologiques, aussi pour des raisons liées à la concurrence que se livrent les différents États entre eux, notamment les différents États européens, pour attirer les capitaux, j'ai peur que ces mécanismes-là nous conduisent à reprendre après la crise financière, le même mouvement que celui qu'on observait avant, c'est-à-dire moins de progressivité fiscale, une réduction, voire une suppression d'un certain nombre d'impôts progressifs, et qui, à terme, je pense, aura des conséquences désastreuses sur les structures sociales.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans un instant.
Service de presse de Christine Lagarde, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je prépare un sujet sur les impôts.
Oui.
Et j'aurais voulu demander à l'administration à Bercy, je commence par un petit truc sur l'affaire Bettencourt.
Super, bonne journée.
Au revoir, monsieur. Allô ?
Allô, bonjour.
Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter. J'avais...
Monsieur ?
Ruffin.
R-U-2-F-I-N.
Exactement.
Votre prénom ?
François. Et j'avais déjà laissé un message et on devait me rappeler.
Ne vous inquiétez pas, je lui fais une petite rappel.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Welcome to the Ministry for the Economy, Industry and Employment.
Salut, de bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai déjà appelé à plusieurs reprises et je souhaiterais comprendre en fait comment ça se fait que...
On va lui faire une petite piqûre de rappel, on va lui demander de vous rappeler dès qu'il sort de chez lui. Allô ?
Oui, bonjour, je suis bien au bureau
de
madame.
Vous êtes au service de presse de François Baroin.
Merci.
Mettez tout ça dans votre mail.
Ok.
Alors, je vais surtout vous donner les coordonnées de son service de presse. Bonne journée. Alors, pour ça, il faut envoyer un mail à son attaché de presse.
Je vous remercie, madame.
Je vous en prie.
Au revoir.
Pourquoi vous avez...
Je viens parce qu'en fait, je fais un reportage sur les impôts. Et ça fait 2-3 semaines que je cherche à contacter Madame Lagarde, Monsieur Baroin, Monsieur Estrosi, Monsieur Novelli. Et pour savoir un peu comment ça se fait que Liane Bettencourt paye entre 5 et 10% d'impôts.
Vous n'avez pas pris contact avant ?
Ah si, j'ai téléphoné un tas de fois. Ouais, ouais.
Vous passez tout...
Tout le matériel, on est obligé d'enlever même là.
Métallique et magnétique, s'il vous plaît.
D'accord.
Voilà, bah oui. Alors, quand les gens répondent pas au téléphone, on va les voir. C'est une solution quand on sait où ils habitent, quand ils sont nos élus, et qu'ils prennent des décisions en notre nom. Il semble normal qu'un citoyen, surtout un journaliste qui est là pour éclairer les citoyens, c'est ça le journaliste, hein, c'est éclairer les citoyens, poser des questions, prendre des notes, comprendre, faire comprendre, voilà, donc ces gens sont très occupés, et nos reporters, les reporters de la base J'y suis, vont donc sur le terrain pour enquêter, pour comprendre, dans l'espoir de faire comprendre.
Portique de sécurité passée, merci monsieur. On se dirige vers l'accueil. Bonjour.
Je suis reporter pour France Inter. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je fais un reportage sur les impôts. Et je cherche à contacter le cabinet de Madame Lagarde, Monsieur Baroin, pour avoir des informations, pour comprendre comment ça se fait que Madame Bettencourt était taxée entre 5 et 10%, alors que bon, il y a plein de gens qui le sont au-dessus de 10, moi je l'étais à 15,5, donc j'ai posé cette question une série de fois et j'ai pas eu de réponse, donc je me suis dit je vais venir directement demander à Madame Lagarde au ministère de l'économie ou à Monsieur Baroin. Oui. J'ai demandé un paquet de fois un rendez-vous, j'ai pas eu de rendez-vous, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais venir sur place.
Non, là Madame Lagarde ne reçoit Lagarde, pas sans rendez-vous.
Le planning il est archi complet. Hein.
Il n'y a pas quelqu'un de la communication qui pourrait descendre quand même qu'on...
On peut toujours appeler, voir si elle peut vous recevoir. Hein.
On va se mettre dans le coin peut-être. Donc, c'est bon là, le son. Nous voici donc à Bercy, au ministère de l'économie. C'est ici, derrière des portails électriques et des raisons techniques, derrière des portes fermées et des dossiers compliqués, c'est ici que se cachent les hommes et les femmes qui ruinent la France. C'est ici que depuis 20 ans, les ministres et leurs conseillers ont baissé l'impôt sur les sociétés, truffé de niche l'impôt sur la fortune, supprimé l'impôt sur les successions. C'est d'ici que ruissellent les milliards vers les sociétés du CAC 40 et leurs PDG. C'est d'ici aussi que, pour équilibrer le budget, sont détruits des postes dans les écoles, dans les maternités. Il faut imaginer cela, une immense toile d'araignée aux fils invisibles, mais bien réels. Nous sommes au centre de cette toile, ici à Bercy.
au ministère de l'économie et des liens nous relient directement au compte en banque de Mme Bettencourt, directement au beau chapeau de Mme Wörth, directement au lycée Montaigne ou à l'hôpital Saint-Victor d'Amiens. C'est ici qu'il se terre, comme dans une tanière.
Vous avez demandé à qui l'autorisation? Parce que on n'a aucune note de la CIRCOM, rien du tout.
Non, mais s'il vous plaît, vous enregistrez pas.
D'accord.
Non, mais il ne faut pas enregistrer, en fait, s'il vous plaît. Hein.
D'accord. C'est pour comprendre comment ça se fait que Mme Bettencourt...
Merci. Voilà, je Mme Elio.
Alors, je suis François Ruffin de France Inter. J'avais déjà laissé des messages, notamment pour comprendre comment ça se fait que Mme Bettencourt était entre 5 et 10% d'imposition sur le revenu entre la CSG, la CRDS, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le revenu. Pourquoi je suis en bas? Ben, je suis en bas parce que simplement, comme quand j'appelle Madame Lagarde, Monsieur Estrosi, Monsieur Nevoli ou Monsieur Barouin, j'ai pas de réponse. Je me suis dit, bah tiens, pour avoir une réponse, quand même, je pense que quand si je viens sur place, enfin quand on sonne à une porte, généralement la porte s'ouvre. Donc je me suis dit, je vais aller sur place pour voir un peu, pour qu'il y ait une personne de la communication qui Direction générale des finances publiques. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors j'ai un numéro à rappeler dans 5 minutes, là c'est occupé, mais ils ont dit de rappeler dans 5 minutes quoi.
D'accord.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On refait un petit plateau là peut-être?
On retente, oui.
Ouais, on va refaire un petit plateau. Ça vous dérange pas?
Si.
Oui, on fait un plateau.
Ah bon?
Non, à l'extérieur, pas dans le centre du ministère. Hein.
On peut faire style plus neutre BFM, non?
BFM. Regardez la caméra, ouais, si j'ai pas l'habitude. Chers amis riches, bonjour. Ça va là, le ton?
Refait.
Chers amis riches, bonjour. Nous voici donc à Bercy, au ministère de l'économie. C'est ici, camarades actionnaires, c'est ici que depuis 20 ans, les ministres, leurs conseillers se chargent de votre bonheur. Pour vous, ils ont baissé l'impôt sur les sociétés, truffé de niche l'impôt sur la fortune, supprimé l'impôt sur les successions. C'est d'ici que ruissellent les milliards vers les sociétés du CAC 40, vers leurs PDG, vers leurs héritiers. On aimerait les embrasser tous, le moindre agent qui passe dans ce hall, à pleine bouche, pour tout le bien qu'ils vous font. Pour Madame Lagarde, hip hip hip,
hourra!
Pour Madame Lagarde, hip hip hip,
hourra!
Vous pouvez le faire avec nous?
On va se faire expédier.
C'est France Inter, vous connaissez?
Ouais, mais non, ça,
le matin, il y a une séquence... Si, le matin, il y a une séquence humoristique. Philippe Val nous a demandé d'être un peu plus caustique que Raphaël Mesrahi, un peu Stéphane Guillon, vous voyez.
Oui, d'accord, non, mais c'est bien, mais là, vous allez vous faire jeter, hein, c'est clair.
Vous voyez.
Bah, ça va qu'il passe pas et qu'il fait pas ce qu'il devrait faire, mais...
Vous voulez pas faire avec nous, Madame Lagarde et Pipi Pourra, parce qu'on a besoin de cœur, non?
Je ne suis pas contre, Madame Lagarde.
Ah oui, mais
justement, comme ça, vous pouvez faire les cœurs avec nous.
On va essayer, je suis pas artiste.
Allez. Génial, allez, on y va.
1, 2, 3. Pour Madame Lagarde, Pipi Pourra. Voilà.
Super.
Ça fera un bon lip dub.
C'est diablement bien fait. J'aurais jamais dit que c'était aussi chiadé. Je ne me croyais pas aussi semblable, diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse, un de ces quatre à la lutte des classes. Fichtre, c'est bigrement boutiqué comme un massacre à l'économe. Je ne me croyais pas aussi friable, diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse, un de ces quatre à la lutte des classes. Merde, nos rangs sont assez dépareillés, nos généraux soudoyés. J'ai jamais vu d'armée aussi minable, diable. Mais pourra-t-on toujours faire l'impasse, mine de rien, sur la lutte des classes?
« Voilà, merci à toutes et à tous. En principe, vous devriez avoir quelques images de ce qui s'est passé à l'instant sur le site là-bas.org, là-bas.org, avec notre speaker et son assistante et son porte-micro. C'était un reportage de François Ruffin avec Pascal Pascariello. Merci à Vincent Drezet, à Gérard Gourguéchon, à Thomas Piketty et à Mohamed Lamy Biffin. Surveillez la sortie le 21 octobre 2010 du nouveau livre de Vincent Drezet, Limancoc. Il faut faire payer les riches aux éditions du Seuil, un très bon titre. Et sur un tout autre sujet, parmi les bouquins que nous recevons, très nombreux, à noter la sortie le 16 septembre de l'État du monde 2011. L'État du monde 2011, la fin du monde unique, bouquin aux éditions de la Découverte sous la direction de Bertrand Badie et Dominique Vidal. En effet, le monde, le centre, le nombril du monde est en train de glisser et de se déplacer, et c'est intéressant d'en prendre toute la mesure. Un livre de Pierre Concialdi sur les retraites. Souvenez-vous qu'il y a une manif samedi et que cette histoire n'est pas terminée. En finir avec le catastrophisme, c'est aux éditions Ligne de Repère. Des débats qui dérangent, retraite, en finir avec le catastrophisme. Un livre de Maurice Lemoine, du monde diplomatique, spécialiste de l'Amérique latine et grand reporter s'il en est. Aux éditions Don Quichotte, 5 Cubains à Miami. Le roman, c'est un roman de la guerre secrète entre Cuba et les États-Unis qui connaît des évolutions tout à fait passionnantes ces temps derniers. Puis Maxime Léo, vous vous souvenez de Maxime Léo? On l'a rencontré à Berlin, Maxime Léo, et il raconte l'histoire singulière, c'est un grand journaliste, Maxime Léo, il raconte l'histoire singulière de sa famille en Allemagne de l'Est, en RDA, l'image de son grand-père, de son père, et de ses liens entre la RDA, la France et l'Allemagne, le Berlin d'aujourd'hui. Ça s'appelle « Histoire d'un Allemand de l'Est », un livre de texte de Daniel Ben Saïd, l'ami regretté Daniel Ben Saïd, une radicalité joyeusement mélancolique, c'est chez Textuel, des textes de 1992 à 2006 de Daniel Ben Saïd. Et puis un petit disque très beau qui vient de sortir, c'est un film de Pierre Barou, l'ami Pierre Barou aussi, qui s'intitule « Ça va, ça vient ». C'était une très belle chanson de Pierre Barou pour un spectacle de Oscar Castro. Ça nous ramène au Chili, où nous partirons mardi prochain au Chili. Et c'est les deux périples français d'une fanfare japonaise improbable, Kabocha, Shokai, « Ça va, ça vient », un film de Pierre Barou. Voilà, merci à tous et à toutes. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter en images sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne, Coye Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée d'Agnès Lebot. Et Marina Touillet attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Les solutions prévoyance de la Massif.
Bonjour, je suis Fabien Malmaçon, téléconseiller à la Massif de Compiègne. Hier, j'ai reçu l'appel d'une sociétaire qui élève seule ses trois ados. Elle se demandait ce qui se passerait s'il lui arrivait quelque chose.